Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous et bonjour aux grandes voix. Aujourd'hui, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est intolérable et nous tenions à la dénoncer ici dans les grandes voix d'Europe 1, ces insupportables menaces de mort à l'encontre de notre consoeur de M6 et folie, Ophélie Meunier, ainsi que d'un témoin. Après la diffusion d'un reportage de Zone Interdite sur l'islamisme radical à Roubaix, reportage montrant des poupées sans visage et ce livre promouvant la défense de l'islam par les armes. Les images ont choqué, vive émotion au sein de la ville. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a certes tweeté le 29 juin que tout journaliste attaqué fera l'objet d'une protection policière. Mais sur le fond de cette affaire, le gouvernement n'a-t-il pas échoué sur le régalien? Nous poserons la question aux grandes voix. Comme tous les samedis, les carnets de campagne des grandes voix. À droite, Valérie Pécresse dans la peau de Jacques Chirac, en mode « bonjour la meumeu ». Plus à droite, la guerre continue entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. La première le rangeant parmi les nazis, alors qu'à gauche, c'est toujours la débandade Taubira, notamment après ce grand oral loupé auprès de la Fondation Abbé Pierre. Il y en a un en revanche qui, sans difficulté, a rassemblé plus de 500 signatures. C'est Emmanuel Macron et pourtant il n'est toujours pas officiellement candidat. L'Ukraine, la présidence du Conseil européen, le chef de l'État est très présent diplomatiquement mais plutôt silencieux sur les affaires internes. Un super président européen qui va convaincre les électeurs ou au contraire un président hors sol qui va le couper de la population. Enfin, la France doit-elle quitter le Sahel? 9 ans de présence militaire, 5000 hommes déployés dans la lutte anti-djihadiste. La question se pose d'autant plus après l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali et des manifestations anti-françaises à Bamako. Le risque c'est quoi? Un fiasco comme l'Afghanistan pour les États-Unis? Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Le 30 janvier, le juriste Amine Elbaï et la présentatrice de M6, Ophélie Meunier, ont été placés sous protection policière suite à plusieurs menaces de mort. Menaces de mort suite au reportage de Zone Interdite montrant un islamisme radical répandu dans les rues de Roubaix et s'interrogeant sur les réponses de l'État. Les sociétés des journalistes du groupe M6 leur ont apporté le plein soutien. Idem pour les sociétés des journalistes du Figaro, du Monde, de Radio France, de France 2, de BFM TV, d'Europe 1, L'Express et Le Monde ont publié des éditoriaux de soutien. Jean-Marc Morandini a proposé de diffuser ce reportage de M6 sur CNews, tandis que Le Point écrivait « Nous sommes tous Ophélie Meunier et Amine Elbaï ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé en effet avoir donné l'instruction qu'à chaque fois qu'un journaliste fait l'objet de menaces caractérisées, il bénéficie d'une protection policière. Il rajoute « Les auteurs seront trouvés ». Mais cette affaire, ce reportage d'M6 qui visiblement dérange, Charles Villeneuve, ce reportage et toute cette affaire, c'est très grave.
Oui, c'est très grave parce que on s'aperçoit que la pandémie a masqué la réalité de la progression, notamment de l'intimidation islamiste. Rien, finalement, ne s'est ralenti malgré la pandémie. Et ce reportage démontrait parfaitement qu'on ne peut pas dire, si vous voulez, que Roubaix est devenue une zone de non-droit. Non. Mais que certaines rues, dans certaines rues, régnait une ambiance qui n'était pas très gauloise. Au contraire. Là, vous avez fait allusion à ces poupées sans visage. Il faut savoir qu'elles sont fabriquées en Arabie Saoudite, qu'elles sont importées par une société lyonnaise et que vous les retrouvez pas seulement dans une rue ou dans des rues commerçantes de Roubaix, mais aussi à Lyon, mais aussi à Marseille, là, du côté de la Porte d'Aix, pour ceux qui connaissent Marseille, etc., etc.
Il y a une raison pour laquelle elles n'ont pas de visage, hein, d'ailleurs, Charles.
Oui, parce que, si vous voulez, Allah, c'est Allah qui crée. C'est d'ailleurs ce que dit la vendeuse dans le reportage de M6, présenté par Ophélie Meunier, et où abonde un témoignage qui est très intéressant, qui est assez fort, d'ailleurs d'Amine Elbaï, qui est un juriste d'origine de Roubaix, et qui lui dénonce de manière assez précise, sans ostentation, la force de la présence islamiste. Et c'est ça aussi qui est intéressant, qui fait l'intérêt de ce reportage. Mais ce que démontre ce reportage, et surtout les conséquences, c'est qu'on assiste à l'extension du domaine de l'intimidation islamiste. Et il y a plus de 100 personnalités, journalistes, avocats, littéraires, écrivains, éditorialistes, qui reçoivent aujourd'hui, qui sont soumis à une protection, c'est très lourd, une protection policière, parce qu'elle est constante, elle est quotidienne, et ça dure depuis des mois, il y a 7 ans. Que la rédaction de Charlie Hebdo a été massacrée. Oui. 7 ans. Oui. Et en fait, justement, la mobilisation de l'époque n'a rien freiné, malheureusement. Alors qu'elle était massive, qu'elle était politique et qu'elle avait rassemblé un certain nombre de chefs d'État.
Gérard Carrérou.
Oui, moi j'avais envie de, au début de parodier Bernanos. C'était un peu ce que j'ai vécu, comme beaucoup d'autres. C'est le grand silence des bien-pensants. Parce qu'il a fallu, vous avez rappelé, heureusement, que la machine finalement s'est mise en marche. Mais elle s'est mise en marche un peu lentement. Mmh. Je veux dire par là, la machine d'indignation oui. de ce qui s'était passé. On a eu le reportage, on a eu les images à la télévision, reprises par un certain nombre de chaînes. Et puis finalement, pas grand-chose. Alors qu'il eût été nécessaire d'avoir un immense mouvement d'indignation pour dire, mais enfin, comment, dans ce pays, si on est aveugle, si on ne veut pas voir la vérité, tout va bien. Mais si on veut voir la vérité, ce que beaucoup des millions de gens voient au quotidien, chez eux ou près de chez eux, si on le dénonce à la télévision, si on le montre, on le dénonce même pas, on n'a pas besoin de le dénoncer, on le montre. Si on le montre à la télévision, bon, bah ça passe comme si. Alors moi, pour moi, c'est simple. C'est Roubaix aujourd'hui, c'est l'image d'Épinal de la soumission à la française. Soumission. Ce mot a été quelque part le premier qui l'a véritablement employé. On en avait parlé pendant une heure ici. C'est Michel Houellebecq, il y a 7 ou 8 ans, lorsqu'il a fait ce beau livre, Soumission.
2015.
Eh bien, c'est exactement la soumission à la française, préfigurée par Houellebecq. Et c'est exactement, qu'est-ce que c'est que la soumission à la française? C'est la multiplication au quotidien de ce qu'un autre philosophe, Pierre Manant, a appelé les accommodements raisonnables avec l'islam. Les accommodements raisonnables, ça veut dire il faut quand même leur faire un peu une petite place, il faut quand même leur laisser faire ce qu'ils veulent dans les piscines, il faut laisser un peu ce qu'ils veulent en termes de port du voile, un peu ce qu'ils veulent en termes de ceci. Et ça, à force d'accumuler les accommodements raisonnables, eh bien, on a Roubaix. On a la ville. Et Roubaix, c'est l'esquisse, et je me terminerai là-dessus, c'est l'esquisse d'une petite république islamiste de France.
Oui, je vous rappelle que le livre de Michel Houellebecq, Soumission, devait sortir le 7 janvier 2015, le jour où on a les attentats de Charlie Hebdo, et que du coup, il avait été décalé, bien sûr, d'un mois. Et il était étonnamment, j'allais dire, prédictif sur plein de choses.
Alors, simplement pour revenir sur Roubaix, moi je suis tout à fait d'accord, c'est épouvantable, et d'ailleurs, cette ville où... Puis ces poupées sans visage, en réalité, c'est Mahomet qui doit être sans visage, c'est pas des poupées dans la religion, en plus c'est idiot, en plus. C'est vraiment idiot, c'est une opération islamique imbécile, parce que... Bon. Deuxièmement, Roubaix, le maire de Roubaix n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire le maire de Roubaix, d'abord, il appartient quand même à l'opposition et à LR, aux républicains. Bon, donc, et il est compromis dans beaucoup d'histoires de fond. Donc je me dis que quand même, il y a une particularité de Roubaix. C'est moi, je veux bien qu'on fasse des procès régaliens à Emmanuel Macron, mais en l'occurrence... On aurait pu faire depuis longtemps des procès régaliens au maire de Roubaix, d'abord. Ensuite, c'est insupportable, je suis tout à fait d'accord avec Gérard. Ça, ce n'est pas des petits accommodements, c'est des gros accommodements.
Mais est-ce que c'est une zone de non-droit, comme justement Charles Villeneuve avait des réserves là-dessus? Oui, la ville de Roubaix.
Oui et non.
Mais Valérie Pécresse a déclaré que c'était une zone de non-droit. Enfin,
oui, mais oui et non. On peut dire qu'il y a certains quartiers de Roubaix qui sont effectivement des zones de non-droit, mais pas tout. Comme d'ailleurs, le problème est là, au fond.
De non-France,
le problème est qu'il n'y a pas un endroit dans la France qui soit hors de tout droit.
Il n'y a pas des pancartes
facile.
De non-droit, ça c'est clair.
Oui, oui, oui. N'entrez pas ici non-droit. Le problème, c'est que certains quartiers, effectivement, et que certains maires, pardon, mais certains maires négocient.
Ça commode.
Bon, il faut le dire.
Pour des raisons électorales.
Y compris en Île-de-France, on connaît des maires républicains ou autres, qui, je ne dirais pas de nom, mais qui donnent dans le même édifice, dans le même étage, des logements à toutes les femmes, aux multiples femmes d'un seul homme. Vous voyez, c'est interdit par la loi quand même.
Oui.
C'est interdit par la loi.
Je voudrais dire un mot sur le maire.
C'est un aménagement vraiment financier. Financier et politique et religieux. Et ça, je trouve qu'on ferme les yeux encore beaucoup plus là-dessus. Alors très bien, Roubaix nous les a ouverts, profitons-en.
Alors je voudrais dire un mot sur le maire, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion, parce que moi-même, je suis quand même de la politique comme nous tous depuis un certain temps, j'ai moi-même au départ fait la confusion, parce que le maire de Roubaix s'appelle M. Delbar.
Guillaume Delbarre.
Nous l'avons vérifié, mais effectivement, il y a eu un Delbarre qui a été célèbre, qui a été ministre socialiste, ministre de Pierre Mauroy, un homme éminemment respectable.
Ah bah ça ne peut pas être le
même. Mais j'ai pensé, comme c'est dans la même région,
Delbarre était directeur de cabinet.
J'ai pensé au début, je me suis dit, c'est pas possible. Parfois, on peut avoir un rejeton qui ne soit pas à la hauteur, mais je me suis dit, c'est pas possible que ça soit le fils de Michel Delbarre. Eh bien, non, ce n'est rien à voir. Ça s'écrit D-E-L-B-A-R, oui. Mais ce monsieur Delbarre, il faudrait, maintenant, au-delà de son nom, il faudrait regarder un peu de près, parce que maintenant, il s'est mis extrême droite. Il s'est sorti de LR.
Un dernier mot sur le sujet avec Charles Villeneuve, et après, on passe au carnet de campagne.
La problématique, comme on l'a tous remarqué, n'est pas nouvelle. Simplement, la gravité de cette problématique, c'est qu'elle empire, elle s'étend. Et manifestement, l'enseignement islamiste, lui aussi, s'étend. Et je dirais, se répand. Et c'est ça le problème. C'est très difficile à stopper, à arrêter, parce qu'on a dépassé, si vous voulez, un point grave qui fait qu'on ne sait plus très bien comment prendre le problème.
C'est plus difficile de revenir en arrière à ce stade. Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou reviennent dans un instant. Ce sont les carnets de campagne des Grandes Voix. Tout de suite.
Les Grandes Voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Vous l'aurez remarqué, nous sommes orphelins de Catherine Ney qu'on embrasse aujourd'hui. Mais Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou sont là. C'est l'heure de nos carnets de campagne. Fait marquant cette semaine, une campagne très chiracienne de Valérie Pécresse en Corse. Et aujourd'hui, place au meeting, notamment pour Éric Zemmour à Lille et Marine Le Pen à Reims. Le constat quand même, c'est qu'à droite, tout se joue dans un mouchoir de poche, Michel Cotta.
Dans un mouchoir de poche et surtout dans un débat entre les deux droites extrêmes.
Oui.
Et au fond, Le Pen. On s'aperçoit que ce débat-là aplanit un peu tout le reste. Alors on parlera de Pécresse. On ne parle pas d'autre chose. En réalité, on s'aperçoit que dans les journaux, le meeting d'aujourd'hui, l'un à Lille, c'est l'un avec 6000 personnes, l'autre avec 3000 personnes. Enfin, on ne parle que de ça depuis hier. Bon, il y a peut-être d'autres choses à parler de cette bagarre entre Le Pen et Éric Zemmour.
Vous regrettez qu'on en parle trop ?
Oui, je regrette qu'on en parle trop, mais enfin, je comprends très bien. J'y participe aussi, vous remarquez. J'y participe aussi. Mais je trouve, alors si on reste justement sur cette bagarre, moi, ce qui m'a, cette semaine, interpellée, c'est la grande interview de Marine Le Pen au Figaro.
Oui.
Parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, plus l'un se radicalise, Zemmour, plus l'autre essaye de se normaliser. Et pour le moment, en tout cas, la stratégie de la normalisation reste, je ne dis pas que ça reste jusqu'au bout, jusqu'à l'élection, mais pour le moment, la stratégie de normalisation de Marine Le Pen reste efficace sur les couches populaires, sur les plus petits salaires. Et il y a, en plus, on voit à cette occasion un virage de Marine Le Pen absolument extraordinaire, et notamment sur la famille monoparentale, c'est-à-dire qu'elle accepte la famille monoparentale, donc elle sort de ce kyste comme ça, catholique contre très catholique,
ce carcan.
Ce carcan, ce qui est vraiment intéressant, c'est la première fois qu'elle le fait. Elle le fait avec une grande
humanité,
humanité, mais surtout je trouve qu'une grande constance. Elle est quand même inébranlable, cette femme. On se dit qu'après tout ce qu'elle a pris depuis 15 jours,
elle a une forme de résilience.
Elle a une forme vraiment
de
résistance. Je dirais plus de résistance que de résilience.
Et résilience. Gérard Carrérou.
Oui, la bataille entre les deux est intéressante parce que c'est la bataille pour l'électorat, effectivement. L'électorat de l'extrême droite ou de la droite assumée, peu importe le nom qu'on lui donne. Et il y a à peu près 30% des voix qui sont dans cette corbeille-là.
18 pour Marine Le Pen, selon un sondage que j'ai sous les yeux, et 14 pour Éric Zemmour.
Oui, non, voilà. Ça fait, en gros, selon tous les sondages, les additions, ça fait autour de 30%.
C'est ça.
C'est 17 plus 13 ou 18 plus 12. Bon, 30%, c'est énorme
puisque
c'est même supérieur à ce qui est donné à Macron dans tous les sondages, où il est autour de 25%. Donc, si vous voulez, cette conquête, au point de départ de ces deux droites, appelons ça les deux droites, il y a une droite qui est une droite lepéniste qui est plus populaire, ça on le sait depuis le début, mieux implantée dans le nord de la France que dans le sud, etc. Oui.
Sachant que vous avez
plus
pas mal
populaire.
D'anciens électeurs de gauche socialiste qui maintenant votent pour Marine Le Pen.
Elle a su leur parler au fil des années et elle a ancré une partie de cet électorat-là. Et puis Zemmour, lui, il a pris la droite plus traditionnelle, mais plus, je dirais, plus classe moyenne ou classe moyenne supérieure ou intellectuelle de droite. Il y en a aussi, même si la gauche, pendant longtemps, a eu le monopole. Donc, c'était l'électorat. Et maintenant, on a évidemment à front renversé chacun des deux, puisqu'ils sont à touche-touche, même s'il y a quand même un avantage assez important, il faut le dire, pour Mme Le Pen, hein, parce que 4-5
points,
c'est au-delà de l'épaisseur du trait, comme disent les sondeurs. Mmh. Mais bon, peu importe, ils sont à la conquête tous les deux. Alors, Zemmour essaye aujourd'hui, et ce sera son meeting de cet après-midi, de conquérir cet électorat populaire sur le pouvoir d'achat. Mmh. Parce que Zemmour et le pouvoir d'achat, ce n'est pas deux notions qui paraissent évidentes. On ne voit pas très bien ce qu'il va et nous d'ailleurs dire sur le pouvoir d'achat. Mais on va voir. Et puis, Mme Le Pen, elle essaye au contraire de montrer qu'elle n'est pas qu'elle a une sensibilité effectivement populaire, qu'elle peut garder ce peuple de gauche, et je dirais même qu'elle joue une campagne de deuxième tour, c'est-à-dire qu'elle essaye de ramener des gens de gauche vers son électorat naturel.
Monsieur Villeneuve.
Enfin, moi je trouve qu'il y a un jeu de quilles qui a commencé, notamment à droite, et je ne sais pas qui restera debout et qui tient vraiment encore la corde. Mmh. On verra. La dureté des propos de Marine Le Pen à l'égard de Zemmour...
Dans le Figaro.
Dans le Figaro d'hier, notamment.
Et vice-versa.
Où elle voit un ramassis de nazis, de catholiques pratiquants, au fond, de gens louches quasiment.
Ils sont dans le même sac.
De païens.
Vous remarquerez qu'ils sont tous dans le même sac quand même, les catotradis et les nazis.
Les les païens, les nazis.
Voilà, elle dénonce la présence de nazis, c'est ce qui m'a le plus, si vous voulez, dans l'entourage de Zemmour, c'est-à-dire des ralliés, des anciens de MLP.
Robert Ménard d'ailleurs.
Absolument. Moi, j'y vois le signe qu'elle a intérêt à se placer dans l'esprit des électeurs entre Pécresse et Zemmour, et montrant quelle est la force centrale de droite, puissante, à laquelle il faut se rallier. Et elle repousse aux extrêmes, évidemment, Zemmour, et pour l'instant, elle ménage, en tout cas, elle ne dit rien sur Pécresse. Mmh. Chacun son tour, parce que c'est ça le jeu de quilles.
C'est-à-dire que Pécresse va en prendre pour son grade après, c'est ça ?
Il faut pas faire un strike, si vous voulez, et abattre, ou essayer d'abattre tout le monde, mais chacun son tour. Et on verra qui va rester debout. Il n'est pas sûr que ce soit elle qui reste debout, mais en tout cas, les sondages, il y a un chassé-croisé à l'heure actuelle dans les sondages, les derniers sondages, lui donnent une position relativement dominante. Aussi bien sur Pécresse, qui ne décolle pas, et c'est ça l'un des sujets politiques de la semaine, et évidemment Zemmour, qui pour l'instant, dont tout le monde, ou beaucoup, d'experts ou de pseudo-experts voyaient un décrochage. Or, il n'est pas décroché encore.
Michel Cotta, d'un mot.
Le problème est celui, effectivement, de Valérie Pécresse. Il y a une espèce de compétition, maintenant, dans la sagesse, si j'ose dire, entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Toutes les deux refusent la radicalisation de Zemmour. Et on voit donc qu'il y a, là, pour le coup, la position de Marine Le Pen et la position de Valérie Pécresse se rapproche, ce qui doit sûrement être très désagréable à Valérie Pécresse, et en tout cas, elle se rapproche, mais avec une chute pour Valérie Pécresse. Elle doit absolument y remédier, sinon, si elle ne remédie pas dans le mois qui vient, effectivement, alors, pour le coup, Marine Le Pen risque d'avoir gagné son pari, et en plus, avec des couteaux dans le dos qui la rendent finalement sympathique. Les couteaux dans le dos d'Éric Zemmour rendent plutôt Marine Le Pen sympathique.
Mais Valérie Pécresse donne le sentiment de ne pas savoir pourquoi elle est candidate.
Charles Villeneuve.
Et si elle a une vision de la France. Toutes les élections présidentielles depuis 1965 au suffrage universel direct se sont déroulées sur une vision simple de la France. Chaque président qui a été élu donnait une vision de la France. Et c'est ce qui manque dans le registre de Valérie Pécresse actuellement. Elle fait une campagne thématique.
Une nouvelle pause dans les grandes voies. J'ai tout d'un coup une vision de Marine Le Pen en Big Lebowski avec cette histoire de qui. Mais enfin bon, c'est pas grave, on revient dans les carnets de campagne des grandes voies dans un instant.
Les grandes voies d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Suite des carnets de campagne des grandes voies avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou qui voulait ajouter un mot justement sur la stratégie Pécresse.
Oui, parce que je n'ai pas parlé de Pécresse, j'ai parlé que des deux autres, mais Pécresse, qui devait être normalement au sortir de la primaire républicain qu'elle a gagné, avait eu un petit coup de booster, et normalement, un coup de booster comme ça aurait dû lui permettre de créer une dynamique. Or, force est de constater, plusieurs semaines maintenant, après cette victoire à la primaire, et ce booster qu'elle n'a pas créé de dynamique. Et quand dans une campagne électorale qui n'avance pas, à un moment donné... Oui, mais on dit faux plat d'abord dans un premier temps, puis après on dit la vérité, c'est-à-dire on dit elle est encalaminée. On dit encalaminée, on dit ça ne bouge plus. Et c'est pour ça que des gens... Il y a aussi un quand on dit protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Oui. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui incarne bien ça, c'est Rachida Dati. Rachida Dati qui est dans le même parti que Valérie Pécresse et qui veut lui sans doute lui venir en aide et qui pour lui venir en aide lui donne des bons conseils et pour lui donner des bons conseils quelque part lui met un peu la tête sous l'eau parce que dire à quelqu'un
c'est pas un peu,
dire à quelqu'un
c'est pas un peu là
un peu beaucoup
la noix, là.
Oui je voulais être indulgent mais un peu beaucoup c'est-à-dire à force de donner des bons conseils à quelqu'un ça veut dire mon vieux ma vieille ta campagne ça marche pas ça va pas
c'est du dati dans le texte
faut que tu trouves un deuxième souffle etc ou alors
là,
tu vas te planter
Gérard,
c'est ça que je termine que fait Rachida Dati et c'est à la manière policée de gentleman de la politique qui est M. Stefanini, directeur de campagne, quand il dit qu'elle fait un faux plat, c'est un moyen de dire qu'effectivement, elle ne monte pas. Hein, le faux plat, comme on fait de la bicyclette.
Après, moi, je serais directeur de campagne, je ne dirais rien du tout.
Hein.
Il y a deux raisons. Ça. C'est qu'effectivement, quels que soient ses efforts, on l'a bien vu l'autre jour chez LCI, elle n'arrive pas à révéler sa personnalité. Elle reste transparente, elle reste d'ailleurs au niveau de notoriété beaucoup moins importante que les autres. Ça, c'est un premier point, c'est presque un point physique.
En même temps, Marine Le Pen, c'est sa troisième
Je veux dire, par rapport justement à Marine Le Pen, on voit bien la différence de densité des deux personnages. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent, ça n'a rien à voir. C'est la densité des personnages. Elle a l'air fragile, elle reste fragile, elle dit des choses très bien, elle est première de la classe, elle a réponse à tout, alors elle recule
mais
un peu.
Mais alors quoi, on n'élit jamais un premier de la classe
peu, mais, on a bien élu Emmanuel Macron, mais elle reste sans perspective, sans dessiner des perspectives. Elle reste dans la critique d'Emmanuel Macron, sans dessiner des perspectives. Et c'est vrai.
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle arrache sa veste, qu'elle se coiffe en punk?
On est d'accord, c'est difficile, mais je remarque que c'est Marine Le Pen qui, la première, a dit « Écoutez, arrêtons cette guerre permanente, moi je suis modérée ». Elle aurait peut-être pu le faire avant, ça, en disant, Valérie Pécresse, en disant « Mais attendez, tout le monde se dispute, moi je ne suis pas hystérique, je ne suis pas une candidate hystérique, et j'ajoute, et qu'il y a un problème particulier aux femmes là-dedans ». Vous ne pouvez pas dire le contraire. Les femmes ne peuvent pas exactement se présenter, avoir le charisme. C'est pas le charisme.
On vient de parler de Marine Le Pen.
C'est autre chose.
Vous
savez, comme disait Catherine Ney, Marine Le Pen, c'est le fils que Jean-Marie Le Pen n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'elle a quand même un maintien très qui n'est pas du tout. Elle joue pas dans le rôle des femmes, si j'ose dire. Mais regardez, c'est difficile.
Elle a un maintien masculin.
Fatcher était une femme comme ça.
Oui, mais on a le choix en France. Regardez, le choix en France, on a soit le messianisme de Ségolène Royal, ça nous avait tous rigolé, soit le langage de Chartier et l'imprécision d'Edith Cresson, soit les aboiements de Martine Aubry, c'est très difficile pour une femme et pour une femme de trouver son registre. Je serais plutôt plus indulgente. Je me dis, c'est vrai que pour le moment, elle incarne, elle stagne. Elle peut trouver un moyen de rebondir. Elle peut trouver un moyen de rebondir, surtout si les deux extrêmes droites se bagarrent et se bagarrent solidement.
Non, mais de toute façon, on est pour prendre une comparaison, je dirais, de Formule 1. Il y a un président de la République qui n'est toujours pas descendu dans l'arène, mais qui en même temps, si vous voulez, ressemble à une Ferrari. Et Valérie Pécresse, dans l'automobile, a une Mercedes diesel.
Oui, j'en ai eu une, ça marchait pas mal.
Oui, ça marche pas mal.
Mais c'est pas sûr que ça gagne la course.
Voilà, mais c'est
le
exactement
c'est
ça.
Dur.
Non, mais pour être, si vous voulez, encore plus direct, Pécresse, elle est prise en étau entre le progressisme macroniste et le nationalisme de Zemmour et de Le Pen.
Et comment on fait ?
Et elle recherche, et il faut qu'elle trouve un ballon d'oxygène. Et pour trouver ce ballon d'oxygène, il faut qu'elle arrête sa campagne thématique. Un jour, le nucléaire, un autre jour, le pouvoir d'achat, un autre jour, on s'y perd. On s'y perd. Il faut être beaucoup plus ramassé que ça.
Alors, justement,
mais elle
vous
sera
avez...
mieux. Alors, simplement, une,
oui,
un mot.
Dites-moi.
Elle sera mieux si elle arrive au deuxième tour. Ce qu'à Dieu ne plaît, j'en sais rien. Mais si elle arrive au deuxième tour, elle sera plus libre de ses mouvements face à ce moment-là à Macron, même si elle lui ressemble par bien des côtés. Elle sera plus libre tant qu'elle ne s'est pas débarrassée, effectivement, de son aile marchante, extrême par rapport à elle.
Elle a perdu quand même un argument, elle risque de perdre un argument assez important dans les sondages. On disait, vous vous rappelez au début, s'il y a un duel Pécresse-Macron, Pécresse est mieux placée que Marine Le Pen. Or, cet argument-là, elle l'a perdu dans certains sondages. Je ne dis pas dans tous, elle l'a perdu pour l'instant. Et c'est là où il faut qu'elle fasse une campagne de deuxième tour.
Mais c'est le débat qui la servira. Et y aura-t-il un débat avant le premier tour?
Non.
Une nouvelle pause, les grandes voix reviennent, on parlera de la gauche, du président sortant, toujours pas candidat, et bien sûr du Sahel. Cette question, est-ce que la France doit quitter le Sahel? À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Kerrérou, Charles Villeneuve et Michel Cotta, suite de nos carnets de campagne, on part à gauche. Et évidemment, ce qu'on retiendra de cette semaine, ce sont les balbutiements de Christiane Taubira à la Fondation Abbé Pierre. Ce genre d'exercice raté, c'est létal, non, dans une campagne présidentielle,
surtout,
Michel Cotta.
On se dit tout ça pour ça. Elle bouleverse la gauche. Elle invente quand même un processus de désignation par des citoyens. Je dis, elle invente.
400 000 personnes, quand même, qui ont voté.
Oui, 400 000 personnes qui ont voté. Elle tend la main à des gens qui, manifestement, n'en veulent pas. Elle inscrit sur les listes électorales des gens qui ne veulent pas y être. Donc, au fond, elle dit « je ne serai pas une candidate parmi les autres ». Eh bien, elle finit par être une candidate parmi les autres parce qu'il n'y a aucune raison, mais aucune raison au monde que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou même la Madame Hidalgo, Anne Hidalgo, acceptent ce... Bon. Donc, elle se trouve, une candidate en plus et une candidate qui apparaît bizarrement comme une candidate poétique, mais absolument pas préparée, à rien, parce que le coup du RSA, vous voyez, elle sait quand même pas ce que c'est. Donc, faire une espèce de
dernier exemple en date, c'était quand même Myriam El Khomri face à Jean-Jacques Bourdin sur... C'était les renouvellements de CDD.
Je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas candidate, elle n'a pas bouleversé la gauche. En tout cas, si ça a fait chuter, effectivement... et Anne Hidalgo et Yannick Jadot, qui fait une mauvaise campagne. Ça n'a pas fait chuter Éric Roussel, qui est effectivement très bas, qui est le candidat du Parti communiste. Fabien Roussel, qui est absolument le candidat que personne n'attendait et qui nous fait marrer tous. Quoi. Bah. C'est le seul audible. Alors, il est à 3.
3%,
il est parti à 1. Oui. Alors, au fond, la montée, donc elle révèle ça. Et deux, elle révèle que Mélenchon est un roc, que Mélenchon ne bougera pas, mais qu'il n'arrive pas à déclencher un vote utile derrière lui, un vote utile à gauche.
Gérard Kerrérou.
Écoutez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. La gauche, non, c'est clair, ce n'est pas l'élection où la gauche va pouvoir figurer, je dirais, brillamment, voire honorablement.
Il n'y a pas de François
honorablement.
Mitterrand.
Ouais. Non, faites le total, on retombe encore, je l'ai fait tout à l'heure.
Mais 26.
On retombe encore sur 26. Bon, 26, la gauche qui a gagné.
En comptant Mélenchon, qui ne veut rien entendre.
En comptant large. Donc, la gauche ne le fera pas ce coup-ci. Moi, je me suis trompé sur Taubira. Je pensais que comme elle est dans l'état de désespérance où était la gauche, j'avais dit peut-être que le peuple de gauche va se réveiller. Ben non, puis il ne s'est pas réveillé et la candidate n'a pas... Peut-être que la candidate,
ne s'est pas réveillée non plus.
Si elle eût été à la hauteur de ce qu'elle nous avait laissé entrevoir, peut-être que... Bon, donc ça n'a pas marché. Et à partir de là, effectivement, ça ne marchera pas. Aucun des candidats de gauche, le dernier sondage que j'ai vu hier, dans le dernier sondage, aucun des candidats ne passe la barre de 10 points. Même Mélenchon est à 9. Donc, il y a quelque chose. Je pense que la gauche va se refaire pour la prochaine fois. Il faut que la gauche, pendant les 5 ans qui viennent, travaille et elle s'affrontera à celui qui aura gagné ou à celle qui aura gagné. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure de la gauche et je ne vois pas ce qui peut la réveiller. Alors, Hollande, sûrement pas.
Alors, en attendant, on a Emmanuel Macron, on l'a dit, qui n'est toujours pas candidat, mais il fait savoir qu'il a obtenu ses 500 parrainages. Donc,
même plus que ses 500.
Non, en tout cas, il a passé la barre des 500. Que dire sur Emmanuel Macron qui intervient
sur l'international. On le sent un peu silencieux sur les affaires internes. Alors que, bon, voilà, ce secret de Polichinelle qui devrait normalement, on devrait crever l'abcès aux alentours du 15 février. Oui. Michel Cotard.
Non, mais c'est toujours le cas du président qui se représente. Hein. On le sait, les challengers ont intérêt à se présenter avant lui, mais lui a intérêt, effectivement, à faire durer, comme François Mitterrand l'a fait, à ramener le plus près sa déclaration le plus près possible du vote. Alors, je trouve qu'effectivement, pour le moment, il est dans la politique internationale, mais il faut bien voir que c'est à double tranchant. Il a effectivement maintenu sa volonté d'être président de l'Union européenne pour 6 mois au moment de sa campagne électorale, mais par exemple, beaucoup dépend de ce qu'il va obtenir, par exemple, avec son entretien avec Poutine lundi, de ce qu'il va obtenir de son entretien.
Non, je vous laisse finir.
Oui, beaucoup. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Je veux dire, c'est à double tranchant de diriger une politique extérieure difficile dans des situations vraiment, vraiment compliquées au moment où on est soi-même, où on s'apprête à être candidat à la République.
Charles Villeneuve.
Bon, d'abord, les présidents de la République ont toujours joué sur leur positionnement institutionnel et ont toujours retardé leur entrée dans la campagne. C'est classique. Hein. De Gaulle avant tout le monde, Michel faisait allusion à Mitterrand, bien avant Mitterrand, De Gaulle, c'est lui d'ailleurs qui a retardé le plus possible en 65 l'entrée en jeu, 31 jours, 33 jours Mitterrand. Bon, et même Sarkozy, 60 jours. Et je ne vais pas énumérer tous les déclencheurs de tous les présidents de la République. Mais moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, et peut-être même qui peut altérer son score du premier tour au président de la République, c'est le fait qu'il veuille éviter, d'ailleurs, tous ces chevaux légers de Attal, en passant par Clément Beaune, etc., le disent. Le président de la République, finalement, c'est secondaire. On sait très bien qu'il sera au deuxième tour, et que même au deuxième tour, de toute façon, le sort, l'issue du deuxième tour est réglée, quasiment.
C'est quoi, c'est le lièvre et la tortue ?
Oui, non, c'est pas ça, mais je veux dire que ça peut altérer son score même du premier tour. Vous savez, on a affaire à un pays aux passions citoyennes. Et donc, ça pourra être pris, cette attitude, comme arrogante, si vous voulez.
Une fois de plus.
Indéniablement. Et donc ça se joue beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus serré qu'on ne l'imagine, je pense. Mais enfin, ça, c'est un pari que je prends, évidemment. Et cette attitude-là, glaciale, si vous voulez, de grande maîtrise, de sûreté de soi, peut très bien ne pas apparaître comme positive aux yeux justement de ce que j'appelle les passions citoyennes en France. Et elles existent, les passions citoyennes.
Gérard Carreau.
Alors d'abord, Macron se présentera le 20 février, je vous l'annonce. Le 20 février parce que c'est mon anniversaire.
D'accord, je me suis dit, il a sorti sa boule de cristal.
Je pense que le 20 février, il sera candidat. Bon. On verra. Hein.
Donc ça serait votre plus beau cadeau, campagne. Gérard.
Quel cadeau, oui, quel cadeau. Avec un point d'exclamation. Alors, quelle campagne il fera? C'est assez simple. Il sera le président qui vous a protégé, mes chers concitoyens, qui vous protège, mes chers concitoyens, et qui continuera de vous protéger pendant les 5 ans qui viennent. Et il donnera ses points forts, la Covid ou le Covid. Il donne le management général.
Le quoi qu'il en coûte.
Il aura une forte approbation. L'économie, en disant le quoi qu'il en coûte, a sauvé des pans entiers de l'économie française, et il aura effectivement une reconnaissance. La politique du chéquier, qui est la directe reconnaissance aussi de la politique du quoi qu'il en coûte. Et le pouvoir d'achat, il va bien trouver, d'ici le 20 février, quelque chose à nous dire sur le pouvoir d'achat. Et il utilisera, ça c'est la campagne, qui touche les gens dans leur portefeuille et dans leur santé. Et puis il y aura le petit plus flamboyant, ça sera le levier international où il va essayer, sur l'Europe, avec Schengen ou autre chose, de nous faire accroire qu'il a trouvé une recette pour éviter l'Europe passoire, Mais par contre, il ne nous parlera pas du régalien, ou très peu, le régalien étant entendu que l'immigration, la sécurité, l'autorité, tout va bien.
Michel Cotta.
Non, c'est vraiment un tel résumé, à ta convenance de Macron, qu'effectivement, non,
vu par moi,
il dira aussi, vu par toi, donc il ajoutera aussi la croissance, et le chômage en baisse quand même. Il ajoutera aussi ça. Il essaiera.
Oui, j'ai oublié dans le positif.
Voilà, tu as oublié. Non, mais dans le positif. Évidemment, tu as tendance à oublier dans le positif.
Ah non, j'ai dit déjà beaucoup de choses dans le positif.
Je comprends. Et il reste que, Macron arrive à faire quelque chose avec Poutine, arrive à donner un résultat avec Poutine. Les Français, certes, ils sont, et tu as raison de le dire, ils sont citoyens intérieurs français. Il reste qu'ils sont fiers. Rappelez-vous, la Géorgie et Sarkozy, comme dit Catherine, ils ont été fiers que le président français...
Oui, mais il faut ramener des choses. Attention, il faut ramener des choses.
Oui, il faut ramener des choses.
Et je ne vois pas très bien ce que le président de la République française a dans ses bagages pour impressionner Poutine.
On verra. Pour impressionner Poutine, alors, apparemment, la discussion ne se passe pas si mal. Donc, impressionner Poutine, je ne sais pas qui peut impressionner Poutine d'ailleurs et comment il le fait. S'il arrive à quelque chose, les Français en seront quand même contents.
Oui.
S'il arrive à rien, on
ce sera le petit téléphone.
Un dernier mot, Charles, et après, il faut qu'on passe au Sahel.
Non, mais moi, je crois que l'art de la politique n'est pas celui des armes. Et rien ne se déroule comme prévu. Rien. Pratiquement jamais.
Et ben voilà, dans un instant, la France doit-elle quitter le Sahel ?
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, la France doit-elle quitter le Sahel ? 9 ans de présence militaire française, 5000 hommes déployés. La question se pose d'autant plus après l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali et des manifestations anti-françaises à Bamako. Beaucoup de voix s'élèvent, beaucoup de voix s'indignent. Quelle position adopter, Gérard Carrérou ?
Partir, c'est mourir un peu, comme on dit. Hein. Mais partir, c'est-à-dire réduire d'abord... On ne peut pas partir en quelques semaines. Il faudra peut-être un an pour partir. Mais partir en réduisant progressivement la voilure et en trouvant un autre moyen d'assurer la mission de départ qui était la lutte contre le terrorisme.
Comme les Américains en Afghanistan ?
Mais je veux juste dire une chose. Non, non, on n'est pas...
Ils n'ont pas mis un mois.
C'est pas la même histoire.
Ils n'ont pas mis un mois.
C'est pas l'histoire de l'Afghanistan. C'est pas la même histoire. Mais je pense qu'on partira mieux. On partira peut-être en meilleur ordre, mais on partira quand même. Mais je dirais juste un truc. Ça, pour moi, ça résume tout, l'Afrique d'aujourd'hui. En 30 ans, il y a eu 20 coups d'État en Afrique. En 30 ans. En 18 mois, les derniers 18 mois, il y a eu 4 coups d'État. Vous voyez quand même que le rythme s'est sacrément accéléré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis l'indépendance, qui date maintenant de 60 ans, depuis l'indépendance, les pays africains n'ont pas trouvé un équilibre dans l'organisation ni politique de leurs États, ni économique. On ne peut... Alors donc,
la faute
pour la France... Non, non, on va dire que c'est peut-être la faute de la France. On dira, c'est toujours la faute de la France, d'ailleurs. On dira que pour l'Afrique française, c'est la faute de la France. Mais on ne peut faire qu'une chose aujourd'hui, c'est jouer avec quelques États autoritaires. C'est terrible ce que je dis. On ne peut compter que sur quelques États autoritaires, comme le Tchad de Déby, hein, dont on a intronisé le fils après le père. Mmh. Et pour les autres États, on ne peut pas compter sur eux. C'est terrible.
Charles Vigne.
De toute façon... Gérard a parfaitement raison, ça n'est pas l'Afghanistan. Ça n'a rien à voir avec...
J'ai posé la question à dessein parce que souvent on fait l'amalgame.
Oui, bien sûr. On ne partira pas comme un voleur, si vous voulez. Certainement pas. Nous avons des alliances très importantes, ne serait-ce que la CDAO. Qu'est-ce que c'est la CDAO ? C'est 16 pays africains les plus charpentés économiquement qui rejettent complètement la série de coups d'État parce qu'il faut savoir qu'au Mali, il y a eu des coups d'État dans le coup d'État. C'est-à-dire les mêmes qui avaient fait le coup d'État ont fait un coup d'État contre leurs compagnons eux-mêmes. Donc c'est très compliqué. Et ceux qui sont au pouvoir, la junte qui est au pouvoir à l'heure actuelle, y a-t-il plus corrompu que cette junte ? Y a-t-il plus corrompu que l'armée malienne ? Il n'y en a pas. Les instructeurs européens qui ont servi, et pas seulement français, à essayer de doter cette armée, si vous voulez, d'une discipline, d'une organisation, le soulignent, cette corruption. Et le fait que, de toute façon, aujourd'hui, ils sont accoquinés avec des groupes djihadistes. Et de la même manière que c'est cette junte-là qui vient d'appeler une légion de soudards, composée de Russes, de mercenaires russes, qui ont commis, notamment au Burkina Faso, des exactions de pillage, de viol, etc. Et d'ailleurs, la plupart, même des politiques du Burkina Faso, s'en plaignent. Bref, voilà quelle est la situation. Cette situation n'a plus rien à voir avec 2013, lorsque 1500 djihadistes fondés sur la capitale Bamako et que l'armée française les a arrêtés, a pacifié un certain nombre de villages, notamment des villages du Nord, et a nettoyé en partie ces groupes djihadistes. Il faut partir, mais partir en dénouant les alliances, sans dénouer nos alliances, qui sont très importantes, notamment avec l'Union africaine, qui va tenir, si vous voulez, un convent, en quelque sorte, d'où ils ont éjecté le Mali. C'est l'Union africaine elle-même. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup, beaucoup d'acquaintances, beaucoup de liens avec l'Afrique. On ne partira pas comme des voleurs.
Michel Cotta.
Alors, il y a quelques temps, on a vu cette discussion avec Charles. Et il doit y avoir un an ou deux ans, moi, je pensais que la France était en train de s'enliser et qu'il fallait qu'elle s'en aille. Et Charles me répondait assez justement, non, parce qu'elle ne peut pas laisser le terrain libre. C'est elle qui, quand même, empêche la remontée vers le nord des islamistes, etc. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est obligé de le faire. Alors, il faut le faire intelligemment. On peut effectivement avoir des forces plus rares, mais appuyées sur les États...
Moins massives.
Voilà, sur les États africains
qui restent
solides. Mais alors, le problème, c'est que les États africains ne restent pas solides. On est d'accord, il y a le Tchad, mais le Burkina Faso, on a vu ce que ça donnait. On a vu aussi au Mali. Et surtout, il ne faut pas avoir l'air, pardon, mais il ne faut pas avoir l'air pour la France, Gérard va bondir, de représenter... On est quand même très attaqués, les plus attaqués par le Mali et par les djihadistes. Donc, il y a quand même, à un moment donné, quelque chose où la France doit s'imposer, ou effectivement convenir qu'elle est l'ennemi de certains pays africains.
Je bondirai la prochaine fois, parce qu'on n'a pas le temps.
Mais oui, l'émission se termine, les amis.
Mais c'est pour ça que je le mets à la fin.
Il y a simplement une règle, c'est de jamais rester très longtemps dans un pays.
Charles Villeneuve, Michel Cotta, Gérard Carrérou. La semaine prochaine, promis, on revient avec Catherine Hay. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laurent Mariotte. Très bonne journée à tous.